C'était Leonard Cohen sur l'antenne de Graphite. Il y a longtemps qu'on n'a pas écouté Leonard Cohen sur Graphite. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. C'est très simple, Biotine, c'est juste après Vibra SOS. C'est-à-dire que pendant une heure, vous dansez, tout ça. Et puis après, l'heure suivante, eh bien, on se pose un peu et on regarde l'état du monde scientifique, évidemment, pour pouvoir traiter de l'actualité scientifique, c'est-à-dire la médecine, la technologie, l'espace, les communications, l'énergie, tous ces sujets-là qui nous concernent. Eh bien, nous regardons un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble des laboratoires du monde entier, enfin les laboratoires qui communiquent évidemment, mais ça nous permet d'avoir une idée un petit peu des orientations, des travaux de recherche dans ce domaine-là, et ce qui apparaît dans ces articles, on se dit que quelque part cela va nous concerner dans quelques instants, c'est-à-dire demain, après-demain, la vie est tellement rapide. C'est ça Biotine, c'est tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour ce direct et je suis doublement heureux aujourd'hui parce que je vous retrouve et je retrouve Carole sur l'antenne de Gratifit. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, je suis ravie d'être de retour dans le studio.
Ah, cette voix qui m'a tellement manqué, c'est tellement agréable. Merci Carole de nous accompagner pendant cette heure d'émission. On va donc... Attends, c'est parce que j'appuie sur plusieurs boutons.
Tant que ça nous coupe pas les micros.
Non, ça devrait le faire, je pense. Je sais pas, c'est une espèce de Larsen qui est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Nous allons donc parler de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous suivent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet, que ce soit en direct ou en différé grâce au podcast et puis la diffusion de l'émission tous les mardis à 10h, bien évidemment. Comme nous sommes en direct aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir en nous envoyant des SMS et exclusivement des SMS parce qu'on n'aura pas le temps de décrocher le téléphone. 06 95 065 026 06 95 065 026. Nous sommes donc aujourd'hui le 17 septembre. Il faut savoir qu'en 1822, Jean-François Champollion déchiffre pour la première fois des hiéroglyphes égyptiens antiques en 1822, c'est-à-dire que ça fait 200 ans précisément. Et en 1871, c'est l'inauguration du tunnel ferroviaire du Fréjus qui va relier la France à l'Italie. En 1871, quand même, déjà à l'époque, oui. On avait l'idée de mettre un tunnel ferroviaire, c'est assez, assez troublant. Naissance, le 17 septembre 1677. Oui, aujourd'hui, on va aller loin dans le temps. Naissance de Stephen Hales, qui est un physiologiste, un chimiste et un inventeur britannique. Il était en même temps, parce qu'il avait le temps, il était aussi prêtre anglican. Oui, parce qu'on peut faire plein de choses à l'époque, c'est au XVIIe siècle, on était un peu multicarte. Alors, c'est un pionnier de la physiologie expérimentale. En fait, ce qui est intéressant, parce que nous sommes au XVIIe siècle, il montre, au début du XVIIIe, il montre que la moelle épinière sert de médiateur à certains réflexes. Il étudie les calculs rénaux et biliaires. Il suggère l'utilisation de solvants qui pourraient réduire justement ces calculs sans intervention chirurgicale. Il invente aussi le forceps. C'est lui, Hales, qui le fait. Il est aussi, et peut-être principalement connu pour ses essais statiques. Hein, c'est un volume de recueil de recherche et un petit peu d'expérimentation. Le premier volume s'appelle « Statique des végétaux » et il contient le compte-rendu de nombreuses expériences sur la physiologie des plantes. En fait, déjà à l'époque, il envisageait la perte en eau des plantes par évaporation, la vitesse de croissance des pousses et des feuilles, les variations de la puissance d'absorption des racines à différents moments de la journée. Il avait quand même un minimum de matériel qui n'était pas nécessairement sophistiqué, il avait déjà cette intuition-là. Le second volume va être relatif à la circulation sanguine. Il contient des descriptions d'expériences sur la force du sang pour divers animaux. Il parle de vitesse d'écoulement, de capacité également des différents vaisseaux sanguins. Et par ses inventions d'appareils un peu ingénieux, eh bien, Hales permit d'ouvrir de nouveaux champs d'études en physiologie végétale et en chimie. Et on lui doit la mise au point en 1727 du montage par déplacement d'eau qui lui permit d'identifier le gaz produit, notamment quand la plante va produire du gaz gaz. Alors, on saura par la suite ce qu'est ce gaz, mais à l'époque, on ne savait pas trop. Et il avait donc mis en point tout un dispositif pour pouvoir essayer d'évaluer ce volume de gaz. Début du XVIIIe siècle, il s'appelle Stephen Hales. Décès le 17 septembre 1936 de Henri-Louis Le Châtelier, chimiste français, connu des chimistes parce qu'il a notamment découvert un principe chimique qui s'appelle le principe de Le Châtelier, je vais y arriver. Je ne vais pas rentrer dans les explications, seuls les chimistes puristes savent de quoi je parle, mais en tout cas, voilà, Le Châtelier est décédé un 17 septembre 1936, chimiste français, mesdames et messieurs. Carole.
Oui, alors en plus, petite dédicace, je pense qu'on a des chimistes qui nous écoutent, donc ils seront ravis d'avoir eu cette... Tout à fait, tout à fait.
Mais voilà, c'est leur modèle à eux.
Alors oui, ben on va commencer par tout de suite rentrer dans le vif de l'actualité, puisqu'on en parle à chaque fois dans l'émission, chaque année, il y a la remise des IG Nobel ou Ig Nobel. C'est une version humoristique, hein, mais évidemment toujours rigoureusement scientifique, des prix Nobel. Et donc on vient de révéler, normalement c'était il y a deux jours si je ne me trompe pas, les 10 projets lauréats en 2022. Donc à chaque fois, c'est vrai qu'on se délecte quand même de voir quels sont les sujets d'études. Là, j'ai décidé justement de faire le focus sur 3-4 sujets qui m'ont particulièrement, qui ont retenu mon attention. Mais donc, il y en avait une dizaine qui ont été primés. Donc, il faut imaginer qu'il y en a beaucoup plus qui, évidemment, sont proposés. Alors, du coup, pour donner quelques exemples qu'on ne développera pas, mais pour mettre dans l'ambiance, pourquoi les canetons nagent-ils en ligne ? Est-ce que ça vaut le coup de mentir quand on divulgue des potins ? Saviez-vous que les Mayas faisaient des lavements anaux à l'alcool et aux psychédéliques ? C'est très sérieux, hein, c'est-à-dire ça prête. Non, mais je savais que celui-là ferait sourire, mais c'est extrêmement sérieux.
Sourire, mais on se demande pourquoi.
Oui, mais alors là, on n'aura pas la réponse parce que ça ne fait pas partie de ce que je vais développer. C'était juste pour faire du teasing. Donc, ça récompense du coup ces prix, les travaux nouveaux et anciens qui sont parfois publiés dans des revues prestigieuses, mais évidemment qui prêtent tous à sourire puis à réfléchir. C'est quand même ça, du coup, la formule des IG Nobel. Et à défaut du prix Nobel où on gagne $1 million, hein, ici, évidemment, c'est symbolique, on gagne un trophée en papier et un billet de $10 trillions. Voilà. Donc, mais après, pour les chercheurs, j'imagine que ça donne de la visibilité et puis également, ça leur permet pour certains de publier quand même dans des revues extrêmement prestigieuses, comme je venais de le dire. Donc, on va commencer par s'attarder sur le prix de cardiologie. Là, la question étudiée, la problématique scientifique, c'était quand de nouveaux partenaires romantiques se rencontrent pour la première fois et se plaisent, leur fréquence cardiaque se synchronise. Et ça me rappelle une histoire justement sur la fréquence cardiaque que j'avais déjà un petit peu développée dans l'émission il y a quelques temps. Alors là, ça a été publié dans la revue Nature Human Behavior. C'est quand même significatif. Et de quoi s'agit-il ? Alors déjà, est-ce que vous avez connu un coup de foudre, hein, cette étincelle soudaine pour une personne qu'on vient de rencontrer ? Alors ici, en fait, ils ont fait se rencontrer 140 sujets dans une salle, alors ils ont appelé ça une salle à rancard, et en fait dans laquelle la direction du regard, les expressions, ainsi que la conductance de la peau, donc c'est notamment via la production de la sueur, et la fréquence cardiaque sont enregistrées pour chacun donc des deux participants. J'imagine qu'il les faisait se rencontrer donc deux à deux. Alors finalement, aucun signal pris séparément n'est un bon prédicteur de l'attraction ressentie, puisque finalement beaucoup de ces indicateurs, en fait, ils pouvaient indiquer simplement de la nervosité. Mais le vrai signe d'attraction partagée qu'ils ont identifié, c'était la synchronisation des fréquences cardiaques et de la production de sueur. Donc, une des responsables de l'étude, hein, Eliska Prochakova, nous explique que des chercheurs montrent qu'en fait, les couples mariés se synchronisent quand ils se disputent, mais aussi quand ils se sentent proches l'un de l'autre. Les humains se synchronisent sur tant de niveaux sans s'en rendre compte, et ça influence leur processus de décision. On le sait pour le bâillement, c'est vrai qu'on le sait pour pas mal de choses. Donc là, il l'avait déjà prouvé chez les couples mariés, mais visiblement, la synchronisation de la fréquence cardiaque, elle se produit aussi lorsqu'on se rencontre et qu'on se plaît.
Non, mais c'est le protocole expérimental me fait penser à ce film que tu as peut-être pas connu, Les Sous-doués en vacances.
Alors si, je vois la référence. Oui, je connais la référence.
Cette référence, je pense que tout le monde y pense, mais il y a plus de 40 ans, en fait. Et en fait... ils ont fait ça.
Oui. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on se dit que ça doit être des projets sur lesquels on a envie de travailler. Oui.
On était tous les deux. Voilà,
ouais, c'est ça. Ouais.
Mais ils n'ont rien inventé, en fait.
Non, mais ils l'ont démontré avec, du coup, les preuves scientifiques. Alors, passons sur le prix de la littérature. Voilà, hein, un petit peu sur du côté moins scientifique. Mais non, vous m'en direz tant. Pourquoi les textes légaux sont-ils inutilement difficiles à comprendre ? C'est vrai, on connaît toutes ces phrases compliquées qu'il faut retenir par cœur pour tous ceux qui ont fait des études de droit. Là, ça a quand même été publié dans la revue Cognition, donc une revue très connue. Et en fait, ils se sont intéressés justement à tous ces verbatims en fait, dont sont truffées les phrases à rallonge des textes juridiques. Je donne quelques exemples. « Attendu que », affidavit, en vertu de, assujetti, etc. Ils ont remarqué que c'était la même chose en anglais. Et donc, en comparant en fait, la compréhension d'un texte juridique avec sa version simplifiée, ils se sont demandé pourquoi on trouvait du coup tous ces termes. Alors évidemment, les textes légaux donc, contiennent beaucoup plus de caractéristiques difficiles à traiter que les autres types de textes, académiques, textes de fiction, les journaux ou à l'oral. Et parmi ces caractéristiques, eh bien, les auteurs ils ont soulevé en fait que l'emploi de la forme passive... Ah, là, tu as coupé le micro. L'emploi donc de la forme passive, de mots archaïques ou d'un jargon assez opaque, d'une syntaxe complexe ou encore de clauses enchâssées, eh bien, jalonnait évidemment tous ces textes. Alors, ce que nous disent du coup et ce que concluent les chercheurs de l'étude, c'est que s'il semble tout à fait plausible qu'un certain jargon juridique soit inévitable, nos résultats suggèrent que, dans de nombreux cas, ce jargon peut être remplacé par des alternatives plus simples qui permettent d'augmenter la mémorisation et la compréhension tout en préservant le sens. Peut-être quelque chose sur lequel réfléchir pour favoriser du coup ces nombreux étudiants qui doivent apprendre par cœur des pages et des pages de textes légaux.
Oui, mais après, si tu mets à portée de tout le monde la compréhension des textes légaux, tu peux plus contrôler après. C'est fait exprès.
Oui, c'est fait exprès pour que finalement ce soit réservé à un certain nombre de personnes.
C'est un élitisme, je pense. Mm. Enfin, je ne sais pas, je me pose la question.
Peut-être une prochaine étude, j'allais dire, qui sera primée pour les IG Nobel. Là, on enchaîne. Alors évidemment, Jean-Noël, tu connais mon attachement à la biologie, donc je ne pouvais pas ne pas présenter le prix de biologie, qui est quand même particulièrement... voilà, tu me diras quel est l'adjectif approprié. Puisque là, ils ont étudié en fait la constipation et son influence sur la reproduction des scorpions. Je vais préciser, je vais t'expliquer de quoi il s'agit également à nos auditeurs. Donc cette fois-ci, ça a été publié dans la revue Integrative Zoology. Ce qu'il faut savoir en fait au départ, c'est lorsqu'un prédateur tient un scorpion par la queue, eh bien cette dernière se détache de leur corps. Cette amputation, elle est appelée autotomie. C'est donc une amputation volontaire et ça sauve la vie du scorpion puisque comme ça, le prédateur, bien sûr, ne peut pas le manger. Mais évidemment, elle a un coût puisqu'en fait, le bout de la queue du scorpion contient l'anus et donc le moignon de queue désormais clos par la cicatrice condamne en fait le scorpion survivant à ne plus jamais déféquer. Moi, j'étais pas au courant. J'avoue que je l'ai vraiment appris du coup en découvrant le prix. Donc, le co-auteur de l'étude, Glauco Machado, nous précise bien que l'animal, il devient constipé à vie. Et donc, en étudiant des scorpions d'Amérique du Sud, donc de l'espèce Anantheris balzani, les chercheurs ont constaté que cette autotomie n'a pas affecté leur vitesse de course, même en cas de constipation sévère, ni leur recherche de partenaires. Donc on imagine qu'ils ont commencé à étudier comme ça les différents comportements du scorpion. En revanche, les femelles constipées et donc pleines de sel, eh bien elles produisaient moins de progéniture. Et sur le long terme, et uniquement pour les mâles, la constipation affectait leur locomotion quand même, et donc leur faculté à trouver une partenaire. Donc, mâles comme femelles avaient des difficultés du coup à gérer cette constipation. Ce que nous précisent les chercheurs et ce qu'ils ont observé, c'est que cependant, comme la mort par constipation, elle prend plusieurs mois, les mâles... Oui, alors c'est là où je me dis, mais ça doit être horrible. Enfin, c'est-à-dire qu'ils finissent par mourir de ça quand même. Ils sont sauvés pendant un certain temps, mais ça reste un sursis. Donc les mâles, ils ont beaucoup de temps pour trouver des partenaires et se reproduire. C'est pour ça qu'en fait, cette stratégie de survie, elle vaut la peine au niveau de l'espèce et donc elle a été conservée. C'est-à-dire que ça ne les empêche pas de se reproduire. Ça doit être terrible, mais ils peuvent quand même se reproduire et puis ensuite, du coup, ils meurent. Voilà. Comment enchaîner?
Je ne sais pas, en disant peut-être en souhaitant bon appétit. Ou
peut-être, c'est vrai que c'est l'heure en plus où nos auditeurs non, du coup se restent.
Cette étude a montré ça, c'est ça en fait. On ne le savait pas avant.
Non, on ne le savait pas avant.
Non mais d'accord.
On découvre encore des choses. Ça a été publié en 2021, primé donc en 2022 aux IG Nobel, mais non. Okay. Et moi qui ai fait de l'éthologie, j'avoue que ça aurait été un sujet d'étude intéressant, étudier ses comportements chez le scorpion.
Je n'en doute pas.
Peut-être un peu dangereux, comme normalement ils n'ont plus du coup leur queue, ils ne doivent plus pouvoir attaquer aussi. Et bah alors justement, passons, j'ai un dernier sujet que je voulais détailler. Il s'agit cette fois-ci de la catégorie médecine de cette édition 2022. Et peut-être que là, ça va donner un peu plus envie du coup de manger, puisqu'on va parler de crème glacée ou de sorbet. Puisqu'en fait, donc, ce prix il a été décerné à des chercheurs polonais de l'Université de médecine de Varsovie pour leur travail sur la crème glacée. Mais dans quel cadre, en fait c'est que leur étude, qui a été publiée donc en fin 2021 dans la revue Scientific Reports, elle montre que manger une glace peut prévenir l'apparition du coup d'un effet secondaire très fréquent chez les personnes qui ont subi une chimiothérapie préventive avant un traitement à base de cellules souches pour soigner leur maladie. On sait qu'il y a de nombreux effets secondaires hein, quand on subit des chimiothérapies, il en existe des divers, et c'est quand même intéressant de pouvoir s'y intéresser et savoir comment justement, en plus là avec, vous allez voir, une manière complètement naturelle, on peut du coup les diminuer, les rendre plus supportables pour les patients. Donc il faut déjà savoir que la transplantation autologue de cellules souches hématopoïétiques, hein, revenez bien à vos cours de biologie, c'est un traitement standard pour plusieurs pathologies, dont le myélome multiple, c'est un cancer qui touche donc les globules blancs, mais également pour l'amyloïdose ou encore la sclérodermie systémique. Donc avant que la transplantation ne se fasse, les patients doivent subir plusieurs régimes de chimiothérapie à base de melphalan fortement dosé. Le problème, c'est que ce traitement, il induit un effet secondaire très commun, la mucite ou mucosite orale. C'est une inflammation douloureuse des muqueuses buccales. Donc, pour prévenir son apparition, on propose généralement en fait une cryothérapie aux patients, mais on le fait plutôt en général avec des glaçons ou des poches de glace. Et ces scientifiques polonais, eh bien, ils ont eu la bonne idée de tenter l'expérience avec les sorbets et les crèmes glacées qui étaient disponibles à la cafétéria de l'hôtel. Voilà, ils se sont dit, on va utiliser ce qui est sur place, tiens, on a peut-être un surplus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais ils ont fait un protocole en fait très sérieux, puisque pour 52 patients qui ont accepté de faire l'expérience, alors il s'agissait de manger en fait une glace au début de la chimio, puis trois autres pendant le traitement. Évidemment, les parfums étaient au choix, j'aime beaucoup cette précision. C'est-à-dire qu'au sein du même traitement, on ingère quand même 4 glaces. Et ils pouvaient aussi en recevoir des supplémentaires à leur demande. Le plus important en fait pour les scientifiques, c'était que les patients laissent fondre doucement la glace dans leur bouche pour que le froid puisse agir comme une cryothérapie classique. Et ensuite, ils ont comparé l'apparition de la mucite auprès de 22 patients qui, eux, ont été privés de glace. Donc le groupe, du coup, témoin. Le résultat, c'est que seuls 15 patients sur les 52 au total ont développé une mucite dans le groupe qui avait donc mangé de la glace, contre 13 sur 22 dans l'autre groupe. Et donc les analyses statistiques montrent que consommer crème glacée et sorbet a un effet protecteur qui est significatif contre la mucite. Évidemment, cette étude, elle ne va pas révolutionner la prise en charge des patients en chimiothérapie avec des glaces, hein, c'est trop modeste, surtout on voit quel est l'échantillon, pour potentiellement déjà changer tous les protocoles en place. Mais ce que nous disent là du coup les auteurs de l'article, hein, c'est qu'elle atteint parfaitement l'objectif des IG Nobel, d'abord faire rire et ensuite faire réfléchir.
Ouais, c'est totalement l'idée de cet article, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte en plus d'un soulagement, on va dire, une sensation de bien-être liée
c'est
à la gourmandise.
Tout
c'est
à fait.
Bien. C'est-à-dire que entre manger des glaçons et manger un petit sorbet framboise, effectivement. Non, mais c'est...
Ça doit jouer aussi à d'autres niveaux, et c'est sûr qu'augmenter le bien-être des patients dans ces moments assez difficiles, c'est quelque chose d'intéressant.
Je pense, ouais. À mon avis, c'est une étude qui va se poursuivre, parce que c'est effectivement c'est un sujet intéressant. Et c'est totalement, comme tu l'as dit, la philosophie des IG Nobel. On n'en saura jamais comment on doit dire.
Ig Nobel.
On ne saura jamais. On va écouter un peu de musique, parce que c'est aussi le but dans cette émission, d'écouter un peu de musique dans le cadre de Biotine. 06 95 065 026, si vous souhaitez nous envoyer des messages. 06 95 065 026. On nous demande, Carole, c'est par rapport au premier IG Nobel.
Oui.
Si tu peux nous dire si toi aussi, tu as déjà eu un coup de foudre. On aimerait le savoir. La réponse peut-être après Liz Lawrence sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Liz Lawrence avec Where the Bodies Are Buried sur l'antenne de Graphite.
Merveilleux.
Et je voulais... suis surpris.
Oui, et je voulais ajouter, parce que je me suis dit d'habitude, je dis autre chose. Je voulais ajouter qu'il était du coup 12h28, non 25.
Oui,
12h25. Il est 12h25 sur l'antenne de Graphite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu donner l'heure.
Si tu donnes l'heure, c'est qu'on est en direct. Ça, c'est un indice que je donne aux auditeurs.
C'est ça.
Et comme nous sommes en direct, vous pouvez nous envoyer des messages, si vous le souhaitez, au 06 65... Non, 06 95 065 026.
Et
06
oui.
95 065 026.
Et je voulais répondre du coup à la question d'une
oui.
de nos auditrices.
Tu as déjà eu un coup de foudre.
Mais bien sûr, bien
et donc,
sûr.
Donc du coup, il y a eu une synchronisation...
Eh bien, le problème, c'est qu'on n'est pas en train de mesurer sa fréquence cardiaque à ce moment-là.
C'est pas grave. Une actualité, je pense qu'on n'en a pas parlé, il me semble, je n'ai pas fait attention, et donc je te l'apprends, et j'apprends peut-être aux auditeurs, le décès de la reine Elisabeth II, hein, je ne sais pas si on en a parlé.
Je pense que tout le monde est au courant, mais...
Et puis, il va falloir qu'on s'habitue au nouveau roi, ce n'est plus le prince Charles, maintenant c'est le roi Charles III, qui a donc été proclamé roi samedi dernier, bien évidemment. Alors, la question, et il y a eu plusieurs articles que j'ai identifié cette semaine, et je trouvais ça un peu bizarre parce que moi j'avais une image du prince Charles, on va dire, à l'époque, parce qu'on l'a quand même connu pendant 70 ans en tant que prince Charles, une image plutôt on dirait, bénéfique d'un point de vue scientifique, notamment sur son message qu'il portait autour de l'écologie. On a un petit peu cette image-là. Et il y a des articles qui sont un petit peu plus, vont un petit peu plus loin dans justement cette image médiatique que l'on a, et notamment... Je vous cite cet article de Futura Science, mais il y a eu un petit peu partout dans la presse, et notamment la presse généraliste. Futura Science qui titre « Charles III, vrai défenseur de l'environnement ou charlatan ?» Point d'interrogation, et c'est assez intéressant. En fait, on se pose la question de savoir s'il faut se réjouir celui qui est donc publiquement connu pour sa sensibilité à la cause environnementale. Est-ce qu'on peut se réjouir qu'il accède justement au trône du Royaume britannique ? Et les choses ne sont pas si simples, nous dit-on dans cet article. Alors, déjà, on va revenir en arrière, largement en arrière, c'est dès le milieu des années 80 qu'il convertit sa ferme des Cornouailles en ferme biologique. Dans les années 80 déjà.
Moi, je n'étais pas du tout au courant. Hein. C'est vrai que je l'ai découvert. Oui. Bah ouais.
Il va s'afficher donc à partir de là comme un défenseur des espèces rares et il va soutenir de nombreuses initiatives éco-responsables. On ne parlait pas d'éco-responsabilité à l'époque, on a inventé ce mot-là après, mais en tout cas, voilà, il était impliqué dans ces domaines-là. Et il était même l'un des premiers à publier son bilan carbone. Alors pareil, un bilan carbone, maintenant ça devient un peu à la mode, entre guillemets, excusez-moi, mais... C'était quand même assez novateur à l'époque. Et puis, il y avait également un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est en 2008 à cette époque-là. Et on se souvient aussi des sorties de la famille royale tout entière en amont de la conférence des parties signataires de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques. C'était en 2021 à Glasgow. C'était la fameuse COP26, bien évidemment. Et devant les membres du G20 également, qui étaient réunis avant à Rome, le prince Charles avait estimé que le plus urgent des problèmes à traiter était celui de la santé de la planète. Je cite, « Nous devons maintenant traduire les belles paroles en actions encore plus belles. » C'est ce qu'il exhortait à l'époque quand il était prince de Galles. Et donc, il voulait essayer aussi de s'appliquer ce principe à lui-même. Ça ne devrait pas nécessairement poser de difficultés majeures à ce nouveau roi Charles III. Et pourtant, si on y regarde d'un peu plus près, eh bien, on se pourrait bien que ce nouveau roi ne soit pas aussi vert qu'il le proclame. Certains demandent ainsi depuis longtemps en vain que les propriétés terriennes de la famille royale soient gérées de façon plus éco-responsable. Alors, ça représente que 1,4% des terres du Royaume-Uni. Mais la question, c'est surtout celle de l'exemple. C'est-à-dire que la moitié des terres du pays appartient à moins de 1% de la population, essentiellement des aristocrates. Et s'il y a une prise de position royale, du coup, ça pourrait avoir un impact plus important. Autre point sensible, ce sont les émissions directes de gaz à effet de serre, parce que la famille aime bien se déplacer en hélicoptère, même assez souvent, c'est ce qu'on observe. Et donc, même pour des courts trajets entre deux propriétés, on y va en hélicoptère. Ça me fait penser à cette... polémique totalement débile autour de...
Les jets privés.
Et de Mbappé. Enfin, à un moment, il va falloir qu'on avance un petit peu dans un débat de niveau supérieur. Parce que si c'est ça le débat, oh, de dire sûr. Est-ce qu'il faut qu'ils prennent en train ou pas, c'est pas le sujet. Bon, je ferme ma parole. J'avais envie de le dire. Oui. Après que je dise là, je ferme la parole.
C'était bien pour le dire ici.
C'était bien de le dire ici. Enfin, à un moment, quand on aura un vrai débat sur ce sujet-là, vous m'appellerez et puis je viendrai peut-être donner mon sujet. Pour l'instant, je dis rien. Et c'est un petit peu le même sujet vis-à-vis du roi Charles III également. C'est-à-dire, ils vont un petit peu utiliser des hélicoptères et maintenant on sait qu'il ne faut plus utiliser des hélicoptères. Bon ben voilà, vous prenez une bonne carriole avec des chevaux et puis c'est tout ce qu'il faut. Mais là encore, on va dire que ça va être dans l'anecdotique ou ça va être encore dans le côté peu médiatique, donc au niveau de la surface du sujet. Mais on parle de plus en plus de choses un petit peu plus intéressantes, il me semble, dans différents articles. C'est son penchant, notamment, à peine masqué pour des pratiques pour le moins farfelues. Alors, il soutient depuis très longtemps l'homéopathie. Hein, alors, on va quand même rappeler aussi, depuis un bon bout de temps, que les principes de l'homéopathie n'ont jamais pu être scientifiquement prouvés. Donc, lui, il le défend. Ok, pourquoi pas. Et c'est aussi, et là, c'est là que ça fait polémique, un grand admirateur de Rudolf Steiner, qui est le fondateur d'un mouvement à l'origine de ce qu'on appelle la biodynamie et de l'anthroposophie. Terme compliqué qui montre en fait, quand on lit quelques articles, une certaine dérive sectaire, c'est-à-dire qu'on va associer le côté scientifique et le côté religieux dans l'affaire. Donc on voit très bien après ce que ça peut donner. Et ces pratiques de la biodynamie et de l'anthroposophie, ça n'a jamais pu être scientifiquement démontré. Et en fait, il y a quelques années, le prince de Galles, à l'époque, prononçait même fièrement le discours d'ouverture du congrès international de ce mouvement biodynamique. Il faisait donc l'éloge de la méthode agricole anthroposophique qui est basée, cette méthode, sur l'astrologie, okay, sur l'alchimie, pourquoi pas, sur l'homéopathie, on vient de dire ce qu'on en pensait, et il avait une critique envers les autres qui avaient, d'après lui, une pensée scientifique réductionniste, non, ils ont simplement une pensée scientifique, point, et il se disait même fier, et ça on retrouve cette phrase partout, fier d'être un ennemi des Lumières. Donc c'est, c'est pas n'importe quoi, en fait, comme phrase, et on retrouve, j'ai retrouvé ça cette semaine dans différents articles, et même dans la presse généraliste, hein, pas nécessairement scientifique, de ce roi Charles III, qui certes a une image de quelqu'un qui a, et c'était très bien, porté un message autour des valeurs de l'écologie, du développement durable. Après, quand on gratte un petit peu, c'est moins glorieux, on va dire.
On verra par les actes ce qu'il va faire, de toute façon. Moi, j'avais entendu dire que, justement, comme là, il allait être après forcément sur la réserve, etc., enfin, qu'il allait devoir changer de posture, ça allait beaucoup être William, en fait, qui allait prendre le flambeau, justement, sur les problématiques écologiques.
C'est possible. Après, je ne sais plus quel âge il a, Charles III, il va difficilement...
Plus de 70 ans, mais je ne sais plus.
Il a plus de 70 ans, fatalement. Il va difficilement avoir le temps d'impulser une pensée...
Il n'aura pas 70 ans de règne, ça c'est sûr.
On connaissait la pensée de la reine Elisabeth II. Ça va être difficile pour lui. Je ne pense pas que l'écologie soit une priorité vu ce que subit actuellement le royaume britannique. Donc... effectivement, c'est peut-être le fils qui peut, lui, avoir à la fois une vision un petit peu plus moderne de ces sujets-là et du coup peut avoir un impact plus important. Effectivement, il faudrait le suivre. Pour l'instant, on n'a pas de signaux, mais enfin, il faut laisser le temps.
Oui.
La reine n'est pas encore allée... voilà, il n'y a pas encore l'enterrement, donc on est dans une période de deuil, c'est pas le moment. Mais en tout cas, je trouvais ces articles assez intéressants pour nous montrer une facette, en fait, qu'on ne connaissait pas de ce nouveau roi britannique.
Mais merci
de rien.
De nous éclairer.
Aucune transition avec ton sujet suivant, je
pense. Non, pas de transition. Je reviens du coup au sujet des maladies infectieuses pour lesquelles l'Organisation mondiale de la santé prête attention. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas du Covid. Mais bon, je reviens à ça parce que c'est quand même l'actualité. Je vais parler de la variole du singe ou la monkeypox. On voit qu'on en parle moins là d'ailleurs, mais il y a quand même des articles qui sortent sur le sujet, puisque là il s'agit d'un article publié donc dans Science et Avenir et qui date du coup du 14 septembre, où justement on voit qu'il y a eu des études qui ont commencé un petit peu à se développer sur le sujet et où on arrive à mettre en évidence le fait que la variole du singe, elle pourrait affecter le cerveau. Donc on est, je le rappelle, hein, pour ceux qui étaient cachés dans une grotte les dernières années, ça fait 2 ans et demi qu'a eu lieu le démarrage donc, de la pandémie de Covid-19. Et on sait que là, la recherche, justement, elle commence à mieux comprendre le virus du SARS-CoV-2, comment il affecte nos organes et notamment notre cerveau. Et pourquoi je fais ce parallèle? C'est parce que, justement, la variole du singe qui a refait surface, donc c'était récemment, c'est où on a commencé à en parler au mois de mai hein, 2022, elle a tout de suite été regardée de près. On a vu les alertes assez rapide et justement on l'a commencé à la regarder parce qu'il pouvait peut-être y avoir donc certaines similitudes et on s'inquiétait également évidemment de l'effet de propagation. Alors pour donner quelques chiffres quand même, hein, au 1er septembre 2022 on a 3547 cas qui ont été confirmés en France et on aurait à peu près 41 000 cas dans le monde. Donc ça c'est des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui datent donc fin août début septembre. 34% des cas qui sont recensés dans le monde, ils se trouve quand même aux États-Unis. Et c'est là aussi où on a enregistré donc le plus de décès, 12. Donc on peut se dire que ça reste quand même quelque chose de contenu, mais c'est sous surveillance. Les premiers symptômes qui ont été identifiés pour la variole du singe, c'est de la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue, ce qui reste quand même des symptômes qui sont présents dans de nombreuses maladies. Mais là où on n'a plus de doute, c'est qu'il s'ensuit une éruption cutanée assez étendue, où on a donc ce qu'on appelle des macules, des papules, puis des pustules. Donc ça se voit. Et tout comme justement le Covid-19, des scientifiques ont commencé à se dire que ça pouvait aussi affecter le cerveau des personnes contaminées. C'est les résultats d'un article paru récemment dans eClinical Medicine. C'est une revue qui fait partie du très célèbre Lancet. Alors, le docteur Jonathan Rogers de la faculté des sciences du cerveau de l'University College de Londres, ce qu'il explique, c'est que lui et son équipe faisaient partie justement des premières équipes à se pencher sur les complications neurologiques et psychiatriques du Covid-19. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un parallèle. Et c'est pour ça qu'ils se sont intéressés aux conséquences neuropsychiatriques des maladies infectieuses. Par ailleurs, ce qu'il nous dit aussi, c'est que des complications neurologiques ont déjà été observées chez les personnes atteintes de la variole, qui fait partie de la même famille de virus que la variole du singe. C'est les fameux poxvirus. Donc là, je parle de la variole humaine. Et c'est ce qu'on disait hors ligne pendant la musique. Jusqu'à quand même très récemment, elle existait et bon, elle avait été elle a été quasiment éradiquée, voire éradiquée. Donc, mais là, ça réémerge avec donc la variole du singe, qui donc est un virus proche. Alors, l'équipe dirigée par des scientifiques britanniques, elle a passé en revue 19 essais cliniques sur la variole du singe et elle a produit une méta-analyse qui comprend au total 1512 participants issus de nombreux pays. J'en cite quelques-uns, les États-Unis, le Nigeria, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Grande-Bretagne. Oui, République démocratique du Congo et République du Congo, c'est pas la même chose. Et leurs résultats, ils ont montré qu'environ 2,7% des patients atteints par la variole du singe ont eu au moins une crise d'épilepsie et 2% d'entre eux ont eu une encéphalite. L'encéphalite, c'est une inflammation grave du cerveau qui peut causer des séquelles à long terme. Et il est probable finalement qu'une part des malades souffrait en fait à la fois de l'encéphalite et de la crise d'épilepsie. Le problème, c'est que la plupart des études, elles mentionnaient finalement peu de détails. Et on sait aussi que l'encéphalite peut elle-même causer des crises d'épilepsie, des symptômes psychiatriques, des épisodes de confusion, voire même un coma ou la mort. Donc il y a aussi comme ça des interactions entre différents symptômes. L'encéphalite, elle peut aussi entraîner des handicaps neurologiques à long terme. Donc il faut vraiment surveiller les personnes qui sont atteintes par la maladie sur plusieurs années afin d'observer ce qui se passe. Parce que là, voilà, on a eu une résurgence. Il va falloir voir aussi sur le long terme. Pour l'instant, forcément, on regarde ce qui se passe à court terme. Et justement, ce qu'ils ont aussi identifié, c'est que 2,4% des patients ont souffert de confusion. Alors, la confusion observée, elle fait probablement partie d'un syndrome plus large qui est appelé le délirium. C'est un état de confusion intense à cause de la maladie. On ne sait pas encore ce qui le provoque dans le cas de la variole du singe, le plus probable étant le contexte de l'infection et une réponse inflammatoire généralisée de l'organisme. Donc c'est ce qui pourrait causer ces états de confusion. Parfois, les conditions d'hospitalisation peuvent empirer cet état de confusion, mais ils n'en sont pas la cause principale. C'est ce que nous dit toujours le docteur Rogers. Les auteurs y notent également que des problèmes psychologiques comme la dépression et l'anxiété étaient plus fréquents chez les patients hospitalisés, ce qui peut être en lien avec des lésions importantes pour l'apparence physique ainsi que la stigmatisation de la société autour de cette maladie. C'est vrai que là, forcément, comme on a des symptômes visibles qui, en effet, ne disparaissent pas tous forcément, il faut pouvoir gérer ça en société. Ça peut provoquer forcément de l'anxiété, voire certains problèmes psychiatriques. Donc, les chercheurs, ils n'ont pas pu estimer la durée de ces symptômes, puisque finalement, dans la plupart des études qu'ils ont analysées, il n'y avait pas de données à long terme sur le suivi des patients. Comme je l'ai dit, c'est trop récent. Mais ces premiers résultats, en fait, ils laissaient penser qu'une atteinte du système neurologique est possible dans de rares cas. Donc, voilà, heureusement dans de rares cas, mais néanmoins dans ce cas-là, c'est grave. Dans une petite proportion des malades, le virus semble en effet se propager jusqu'au cerveau. On ne sait pas encore exactement comment. Soit c'est de façon directe, en infiltrant les tissus du cerveau, soit de façon indirecte par une réaction immunitaire. On a observé finalement ces dommages neurologiques sur des patients dont l'état avait nécessité une hospitalisation, puisque forcément on a plus de données aussi sur ces personnes qui ont été admises à l'hôpital. Ils ont également recensé beaucoup d'autres complications de la maladie. Les autorités françaises, elles estiment qu'environ un cas sur 10 pourrait être, enfin serait touché hein, dans les faits par des affections telles qu'une éruption majeure avec plus d'une centaine de vésicules, voire des lambeaux de peau qui se détachent. Oui, je sais, c'est moins fun. Des douleurs intenses à différents endroits du corps et en fait, pareil, différentes infections sur différents organes, la peau, même d'autres parties du corps, hein, voilà, allant jusqu'à parfois une atteinte pulmonaire. Donc, on comprend qu'en fait, parce que c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que les gens sont rassurés, c'est quand même une maladie qui se transmet moins. Alors attention, je ne veux pas du tout céder à la panique, mais on se rend compte quand même qu'il faut surveiller, faire attention et que les atteintes peuvent être très graves. Et il conclut en disant que, eh bien, il va falloir réaliser des travaux plus amples et certainement aussi avec plus de recul pour comprendre l'ampleur réelle du phénomène et en savoir plus sur la façon justement dont le virus affecte les différents organes. Donc certes, il y a eu ils ont pointé cette problématique de l'atteinte au niveau du cerveau. Néanmoins, ils ont aussi finalement permis de recenser toutes les complications qui ont été du coup détectées au niveau donc de cette maladie.
Il y a une étude également qui complète ce que tu viens de dire, une étude du Portugal qui parle cette fois de problèmes au cœur avec cette variole du singe. C'est une étude de Ana Isabel Pino qui est donc médecin à Porto et qui donc justement à partir d'un cas précis a un petit peu expérimenté, essayé d'investiguer plusieurs pistes et donc on parle voilà de problèmes du cœur également dans ce domaine-là. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est que là encore on n'a pas du recul, ça nous ramène 2 ans et demi en arrière,
oui.
Qu'on disait à l'époque. Ce qui est intéressant dans la fin de l'article, c'est que on a eu, je trouve assez étonnant d'avoir refait, à mon sens, les mêmes erreurs que l'on a fait à l'époque du sida, c'est-à-dire qu'on a visé une communauté, et en clair la communauté homosexuelle.
Oui.
On refait la même erreur, parce que c'est une erreur. Enfin, il y a un moment, il va falloir qu'on ouvre les yeux, ça touche, nous dit-on dans cet article, des femmes et des enfants. C'est pas anodin. Donc on est évidemment pour l'instant sur une épidémie modéré, je mets d'énormes guillemets bien évidemment, mais en tout cas voilà, c'est une maladie qui touche tout le monde bien sûr, et aujourd'hui on voit très bien que on n'a pas de recul sur les effets de ces maladies. Comme on vous le dit très souvent dans cette émission, la science donnera des réponses quand elle le voudra, c'est pas le moment aujourd'hui, c'est trop tôt, donc il va falloir attendre bien évidemment. Voilà, on a bien plombé l'ambiance. On va écouter Django sur l'antenne de Graphite. 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir, 06 95 065 026. Django, à tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Il est 12h.
17h, oui. 12h47. On a l'impression qu'il est 17h, mais non.
12h47 sur l'antenne de Graphite. Il nous reste très peu de temps pour finir cette émission. Je voulais vous parler rapidement de deux informations. La première, ça concerne bien sûr Artemis. Je dis bien sûr parce que je l'avais évoqué lors de l'émission de rentrée début septembre, où je vous disais, c'était samedi 3 septembre, le soir, regardez le décollage. Et j'apprenais dans la voiture qui me ramenait chez moi après l'émission qu'en fait, ce décollage a été reporté au 23 ou au 27 septembre prochain. On n'en sait rien pour l'instant, parce que avant de pouvoir lancer ces dates, eh bien, la NASA a besoin du feu vert du Space Launch Delta. C'est l'unité militaire chargée de veiller aux conditions de sécurité pour les décollages depuis la côte est des États-Unis. Cette unité de la Force spatiale des États-Unis est la seule autorité qui peut certifier le bon fonctionnement du système d'autodestruction du lanceur. Donc c'est assez sérieux, ça peut ne pas se faire comme ça aussi rapidement. Et donc il y a eu des problèmes de fiabilité lors des différents décollages. Et donc, pour l'instant, on n'a même pas la date précise. Aujourd'hui, c'est le 23 ou le 27 septembre. C'est ce qu'on a comme information, malheureusement. Et on n'en saura guère plus. Donc, soyez attentifs si vous souhaitez voir le décollage donc, d'Artemis qui s'en va vers la Lune. Autre chose, et une autre information qui aura lieu le 27 septembre, c'est la sonde DART, toujours de la NASA, qui a été lancée en novembre dernier. Et cette sonde se prépare à percuter l'astéroïde binaire qui est composé de Didymos. Et puis Didymos a une petite lune autour qu'on a appelée Dimorphos. Ne me demandez pas pourquoi. Et en fait, la sonde de la NASA va percuter cet astéroïde et sa petite lune dans la nuit du 26 au 27 septembre prochain. L'objectif, c'est justement de percuter à 6 km par seconde, c'est quand même assez intéressant. Et l'idée, c'est bien sûr de modifier de façon infime la trajectoire et d'avoir une espèce de défense planétaire. On en avait parlé dans cette émission à l'époque, justement, de cette mission qui décollait. Eh bien, on prévoit ça donc le 27 septembre prochain. Je ne vais pas aller plus loin dans cet article parce que ça nous donne des détails un peu compliqués. Moi, j'ai envie d'écouter Carole. Mais en tout cas, voilà, deux informations au niveau spatial. La Lune et c'est cet astéroïde. Donc, c'était Bruce Willis, c'est ça hein ? Il y avait un film avec Bruce Willis. Et bien voilà.
Armageddon, non ?
C'était Armageddon, effectivement. Et donc, malgré ses problèmes qu'il a de santé, Bruce Willis, il va donc aller le 27 septembre prochain sur ça.
On suivra et on en reparlera dans l'émission, je pense, quand ça aura eu lieu.
Quand on aura, voilà, je pense qu'on aura des études, après des analyses. Et puis la sonde Artemis, on en parlera dans les émissions d'octobre, peut-être.
Affaire à suivre.
Mais non, mais parce que ça se trouve, ça va être reporté ad vitam aeternam, on n'en sait rien.
Oui, on verra ça.
On reste dans
l'espace, évidemment, puisque pour terminer, j'avais envie de parler de la planète Mars. On en parle régulièrement dans l'émission et on découvre à chaque fois de nouvelles informations du coup, sur notre planète rouge. Et cette fois-ci, il s'agit d'étudier les glaciers, puisque alors, on a souvent parlé de l'eau liquide à la surface de Mars, qui a disparu progressivement dans son passé, à mesure que la planète changer de climat et se refroidissait. Et là, il s'agit d'un article paru donc dans Futura Science en septembre et qui, en fait, du coup, parle de scientifiques qui conduisent une nouvelle étude qui soutiennent que, justement, en fait, de grands glaciers se sont formés sur Mars, sachant qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques, on n'a pas retrouvé de traces. Et puisque, justement, en fait, vu ce passé de la planète, normalement, de grands glaciers auraient dû se former. Alors, notre voisine, la planète Mars, elle recèle de multiples preuves de la présence d'eau à sa surface, datant de plusieurs milliards d'années. Cependant, alors que l'on s'attend à ce que la glace ait occupé l'hémisphère sud de la planète, on n'en retrouve pas la trace dans les enregistrements géologiques qui affleurent. Donc l'absence apparente sur la planète rouge de ces paysages glaciaires caractéristiques, qui sur Terre occupent des zones massives en Europe du Nord et en Amérique du Nord, elle a conduit les scientifiques à penser que les glaciations à grande échelle n'ont jamais eu lieu sur Mars, ou alors qu'elles n'étaient pas associées à l'eau. Et donc là, on a une nouvelle étude menée par Anna Gros-Gallofray du laboratoire de planétologie et géosciences, donc c'est en fait l'université de Nantes, du Mans et d'Angers, et qui remet en fait en question cette hypothèse et montre que les couches de glace sur Mars se sont probablement déplacées et érodées à des vitesses extrêmement lentes, même lorsque de l'eau s'était accumulée sous la glace. Alors, comment est-ce que, du coup, elle est parvenue à cette conclusion avec son équipe? Eh bien, elle a adapté, en fait, aux conditions martiennes le cadre physique existant qui décrit le drainage de l'eau accumulée sous les couches de glace terrestre, couplée à la dynamique du mouvement de la glace. Et donc, avec ses co-auteurs, elle a considéré la dynamique de deux couches de glace équivalentes sur Terre et sur Mars, avec la même épaisseur, la même température et la même disponibilité d'eau sous-glaciaire, afin de déterminer si le drainage sous-glaciaire évoluerait vers des configurations efficaces ou inefficaces sur Terre et sur Mars. Et quel effet aurait celle-ci sur la vitesse de glissement glaciaire et l'érosion glaciaire? Donc on voit qu'il y a plein de paramètres assez complexes qui ont été étudiés. Je pense qu'il s'agissait de modélisation du coup assez complexe à mener. Et donc en fait, sur Mars, les glaciers ne produiront pas de morphologie sous-glaciaire, bien qu'ils existent et que leur extension fût importante. Donc moi, ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, en ayant justement testé ces différents paramètres, on arrive à expliquer pourquoi sur Mars, il ne se passe pas la même chose en fait que sur Terre. Donc ça a permis ce travail, l'interprétation de l'enregistrement glacio-géologique sur Mars. Et ça vise évidemment à améliorer la compréhension des anciennes glaciations martiennes, telles que celles couvrant la région circumpolaire sud. Donc visiblement, il y a vraiment cette histoire d'hémisphère sud, il y a 1 milliard d'années.
Ah oui, ça ne rajeunit pas.
Non, et surtout, je trouve ça assez fascinant à chaque fois qu'on arrive à étudier les mécanismes qui se sont passés, du coup, il y a aussi longtemps.
Parce que ça permet de mieux comprendre notre présent aussi, et peut-être d'avoir une estimation de notre futur qui nous attend aussi. Ça peut être intéressant. Comme tu parles de Mars, et comme il nous reste rapidement une poignée de secondes, on parle de Persévérance, ce rover qui est à la surface... Non, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. Rover Perseverance qui est donc sur la surface de Mars. On en parle tout le temps dans cette émission, toutes les semaines. Mais ce qui est intéressant là, je vais aller rapidement faire le résumé de cet article qui est paru notamment dans Futura Science, c'est que du coup, il y a une identification assez intéressante de molécules organiques intrigantes, entre guillemets. C'est donc un communiqué de la NASA qui évoque cela, et notamment Thomas Zurbuchen, qui est administrateur associé de la NASA. Et les chercheurs viennent en effet d'annoncer que les derniers échantillons ramassés par le rover sont probablement les échantillons de roches les plus précieux jamais collectés. Pourquoi ? Parce qu'on parle donc de molécules organiques, et des molécules organiques, ce sont des molécules constituées essentiellement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène en général, ça peut intégrer de l'azote, du phosphore et du soufre. Et en fait, tout ça, c'est la base de la vie.
De la vie, oui.
Et en fait, ce que l'on dit, c'est qu'on retrouve des molécules qui pourraient éventuellement être le signe qu'il y a eu par le passé sur Mars la vie.
Alors,
il y a quand même un faisceau d'indices depuis quelques années sur Mars qui montre qu'il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé avant. Et donc, du coup, il y a de l'eau, il y a des molécules organiques. On a un petit peu tous les ingrédients qui nous permettent de dire qu'il y a eu la présence d'une vie passée, bien évidemment. Alors, ce qui est hyper frustrant, c'est que pour l'instant, on est en train d'avoir des indices supplémentaires, mais on n'a pas encore la preuve ultime. Mais ça se rapproche, en fait, c'est ça. Et on sent très bien dans la communauté scientifique une petite émulation, justement, pour accentuer, bien évidemment, les recherches dans ce domaine-là. Je vous l'ai dit, la décennie 2020 va être géniale d'un point de vue spatial, et notamment sur Mars. On voit que l'on retourne sur la Lune, et on voit que sur Mars, on va avoir des informations vraiment essentiel. Donc, il y aura des découvertes qu'on évoquera, bien sûr, dans cette émission. Mais là, voilà, c'est un article qui est paru hier ou avant-hier. Enfin, c'est très récent. Je me devais de vous l'évoquer aujourd'hui parce que la découverte de potentielles traces de vie sur Mars par Persévérance, ça va faire parler, bien évidemment, parce que ça indique, là encore, je ne sais pas, on rajoute une petite pierre supplémentaire sur un édifice qui commence à, je sais pas, à prendre forme, je trouve. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il est 12h57 presque. Merci Carole pour cette présence dans cette émission.
Et ben merci beaucoup du coup de m'avoir à nouveau accueilli. J'apprécie toujours autant les directs.
Oui, il y a une petite, voilà, un petit quelque chose en plus quand c'est du direct. C'est ça qui est toujours intéressant dans cette émission. 06 95 065 026 si vous souhaitez, avant de rendre l'antenne, nous envoyer un dernier SMS. Cette émission, c'est la rediffusion le mardi matin 10h sur Graphite. Donc graphite.net et le 94.9, et les podcasts bien évidemment de ces émissions sur le site internet graphite.net. Il n'y a pas d'actualité, je pense, actuellement au niveau de Graphite, ça sera plutôt en octobre. octobre. Toi, Carole, tu as une actualité personnelle assez chargée, si bien que on te laisse à ces activités. On te retrouve
au mois d'octobre, oui,
sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. Et on aura peut-être pas mal d'informations sur ce qui se passe avec toutes ces fusées qui doivent décoller et puis qui prennent leur temps feignante. Allez savoir. Merci à vous et tout de suite la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. À samedi prochain, 12h, pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Bonne journée.
Merci à bientôt.